On se rappelle le dénouement. Ces messieurs de la justice et de la gendarmerie haussèrent les épaules et ne tinrent aucun compte de cette élucubration. Mais quatre hobereaux de la contrée prirent leurs fusils et se mirent en chasse, les yeux au ciel, comme s'ils eussent voulu démolir quelques corbeaux. Au bout d'une demi-heure, ils apercevaient l'assassin. Deux coups de feu, il dégringola de branche en branche. Il n'était que blessé. On le captura. Le soir, un journal de Paris, lequel ne connaissait pas encore cette capture, publiait la note suivante. « On est sans nouvelles d'un monsieur et d'une madame Bragoff, débarqués il y a 6 semaines à Marseille, où ils avaient loué une automobile. Habitant l'Australie depuis de longues années, ils venaient en Europe pour la première fois, et ils avaient prévenu le directeur du jardin d'acclimatation, avec qui ils étaient en correspondance, qu'ils amenaient avec eux un être bizarre, d'une espèce absolument inconnue, et dont on ne pouvait dire si c'était un homme ou un singe. D'après M. Bragoff, archéologue distingué, on serait en présence du singe anthropoïde, ou plutôt de l'homme-singe, dont on avait pu jusqu'ici prouver l'existence. Sa structure serait exactement pareille à celle du Pithecanthrope rectus découvert à Java en 1891 par le docteur Dubois. Et certaines particularités sembleraient donner raison aux théories du naturaliste argentin M. Ameghino, lequel, avec des fragments de crâne trouvés lors des travaux de creusement du port de Buenos Aires, avait pu reconstituer le diprotome. Intelligent, observateur, cet animal singulier servait de domestique à ses maîtres dans la propriété qu'ils occupaient en Australie, nettoyait leur automobile, essayait même de la conduire. Que sont devenus monsieur et madame Bragoff? Qu'est devenu l'étrange primate qui les accompagnait? La réponse à cette question était facile maintenant. Grâce aux indications d'Arsène Lupin, on connaissait tous les éléments du drame. Grâce à lui, le coupable se trouvait entre les mains de la justice. On peut le voir au jardin d'acclimatation, où il est emprisonné sous le nom de Trois Étoiles. C'est un singe, en effet. Mais c'est un homme aussi. Il a la douceur et la sagesse des animaux domestiques, et la tristesse qu'ils éprouvent quand leur maître est mort. Mais il a beaucoup d'autres caractères qui le rattachent de plus près à l'humanité. Il est fourbe, cruel, paresseux, gourmand, rageur, et surtout, il a pour l'eau de vie une passion immodérée. À part cela, décidément, c'est un singe. À moins que... Quelques jours après son arrestation, j'aperçus, immobile devant la cage, Arsène Lupin, qui sans aucun doute cherchait à résoudre cet intéressant problème. Tout de suite, je lui dis, car la chose me tenait à cœur, vous savez, Lupin, eh bien, votre intervention dans cette affaire, votre démonstration, votre lettre, enfin, ne m'a pas épaté. Hein? Et pourquoi? Pourquoi? Et parce que l'aventure s'est déjà produite, il y a 70 ou 80 ans. Edgar Poe en a fait le sujet d'un de ses plus beaux contes. Dans ces conditions, le mot de l'énigme se trouvait aisément. Arsène Lupin me prit le bras et m'entraîna. « Quand donc l'avez-vous deviné, vous ?»« En lisant votre lettre. »« Et à quel endroit de ma lettre ?»« Vers la fin. »« Vers la fin, n'est-ce pas ?» Après que j'eus mis les points sur les i. Ainsi donc, voilà un crime que le hasard répète dans des circonstances tout à fait différentes, évidemment, mais pourtant avec la même sorte de héros. Et à vous, comme aux autres du reste, il a fallu qu'on ouvrit les yeux. Il a fallu le secours de ma lettre, de cette lettre où je me suis amusé, j'y étais d'ailleurs contraint par les faits, à employer la démonstration, quelquefois même les termes dont s'est servi le grand poète américain. Vous voyez bien que ma lettre n'était pas absolument inutile, et que l'on peut se permettre de redire aux gens ce qu'ils n'ont appris que pour l'oublier. Sur quoi, Lupin se retourna et pouffa de rire au nez du vieux singe qui méditait avec l'air grave d'un philosophe.